Alors, cette semaine, nous sommes encore dans l'évangile de Matthieu. Je vous invite donc à trouver l'évangile de Matthieu dans vos Bibles. C'est tout au début du Nouveau Testament. Nous allons aujourd'hui regarder surtout une partie du chapitre 6. C'est la suite du sermon sur la montagne, ce que nous avons commencé la semaine dernière. Et nous serons dans l'évangile de Matthieu, en fait, pendant plusieurs semaines. Et donc, je vous encourage à lire l'évangile de Matthieu à la maison. Nous ne pouvons pas tout dire sur cet évangile pendant nos prédications. Et ce sera sûrement plus parlant si vous lisez l'évangile de Matthieu en parallèle chez vous. Et donc, nous avons choisi ce premier des quatre évangiles comme suite à notre série sur la vie de David, parce que celui-ci en particulier souligne l'identité de Jésus comme le vrai roi d'Israël. Merci Christophe. L'évangile de Matthieu souligne l'identité de Jésus comme le vrai roi d'Israël et le vrai roi de l'univers. Comme Jean-Serge nous l'a dit, il y a quatre évangiles dans la Bible, parce que les quatre se complètent et se complémentent. Chacun de ces livres nous donne une perspective particulière sur la vie de Jésus. Et là, juste une petite parenthèse, s'il y a quatre évangiles dans la Bible, et évangile avec un E minuscule, quatre livres qui racontent la vie de Jésus, il n'y a qu'un seul évangile avec un E majuscule. Vous connaissez ce terme, évangile. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus lui-même. Il n'y a qu'un seul Jésus. Et cette bonne nouvelle par rapport à Jésus, c'est que par sa mort et sa résurrection, nous pouvons avoir une relation avec Dieu. C'est aussi simple que ça, la bonne nouvelle. L'évangile, c'est ça. En mettant notre foi en Jésus-Christ, parce qu'il est mort et ressuscité pour nous, nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Un seul évangile. Tous les quatre évangiles, E minuscule, dans la Bible, parlent de cet unique évangile. Et cet unique évangile est la base de tout le reste de la Bible, la base de tout le reste de notre vie. Et si vous n'avez pas encore saisi cette vérité, si vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus, ce Jésus dont nous parlons, pour que vous puissiez avoir une relation avec Dieu, je vous encourage à le faire sans tarder. Nous l'avons entendu récemment. La vie est courte. Il n'y a pas de raison d'attendre. Par contre, pour nous qui avons déjà accepté ce Jésus pour qui il est, ce Jésus comme Dieu lui-même fait chair, le roi de l'univers et de notre vie, donc. C'est essentiel que nous comprenions ce que ça implique. Nous parlons beaucoup du fait que, par la foi en Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Jean 1, 12. C'est la base de notre nouvelle identité, de notre nouvelle vie en lui. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'un enfant du roi est aussi son sujet. C'est pas parce que nous sommes enfants du roi que nous pouvons vivre comme nous voulons. Au contraire, un enfant du roi est appelé à lui obéir encore plus, en fait. Parce que l'enfant a la mission, avec son père, d'établir le royaume de son père. Le fait d'être enfant de Dieu n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Au contraire, c'est une invitation à participer avec notre Père à sa mission dans ce monde. Et en tant que croyants, nous avons la responsabilité et le privilège d'annoncer que notre Père, il est le roi. Il est le bon roi. Le roi d'amour et de justice. Et nous avons aussi la responsabilité et le privilège de lui obéir afin d'être comme nous. Ce qui sera essentiel si nous prétendons annoncer son royaume. Ça n'aura pas de sens d'annoncer le royaume de Dieu sur terre si le royaume de Dieu n'est pas entré dans notre vie. D'annoncer le règne de Jésus aux autres s'il ne règne pas dans ma vie. C'est complètement incroyable. Vous êtes les enfants de Dieu ce matin. Et votre Père veut établir son règne en vous et à travers vous. Ces prochaines semaines, nous allons donc parler beaucoup de ce roi et de son règne. Comment vivre comme un enfant du roi? Est-ce que nous vivons comme les enfants du roi? Toi, ce matin, tu vis comme l'enfant du roi ou juste comme n'importe qui? Moi, pour ma part, j'espère que oui. Mais je sais bien que ce n'est pas toujours le cas dans ma vie de tous les jours. Je le sais parce que je lis les paroles de Jésus, justement, ici dans les évangiles, et j'y reconnais le décalage entre ce qu'il dit et ce que je fais. Gloire à lui parce qu'il m'a pardonné et qu'il m'accepte quand même. La barre est haute. Je vous avertis, vous lisez cet évangile et vous allez voir que Jésus met la barre très haute. Mais il a dit aussi qu'il est à l'œuvre en moi si je m'ouvre à lui. Et ce qu'il dit, il accomplit. Ce que Dieu dit, il accomplit. Et il a dit qu'il est à l'œuvre en moi. Et pour m'ouvrir à lui, alors je dois prier. Je dois parler à mon Père. Je dois parler à mon Père. Mais comment parler à mon Père? Comment parler à ce Père qui est aussi le roi de l'univers? Si nous sommes enfants du roi, qu'est-ce que nous demandons de lui? Qu'est-ce qu'on demande à un roi? Qu'est-ce qu'un enfant du roi demande à son Père? Qu'est-ce que nous voulons dans cette vie? Qu'est-ce que nous devrions vouloir? C'est ça vraiment la question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous devrions vouloir? Alors, Jésus nous donne l'exemple. Matthieu 6, verset 5. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais dis, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. C'est la prière que nous avons déjà priée. C'était pas fait exprès, en fait, mais quand on a constaté, c'est l'Esprit qui nous a donné cette idée à Raphaël. On va prier au début du culte, et puis on va le prier à la fin du culte. Parce que nous avons fait prier cette prière un peu par habitude, en récitant les mots que nous avons appris. Nous devons comprendre ce que nous prions. Et à la fin, nous allons prier, en fait, selon cette version-là, je viens de lire une version plus moderne, parce que justement, nous voulons non pas juste simplement réciter ces paroles, mais les dire à notre parole, à notre Père. Mais qu'est-ce qu'elle signifie, alors, cette prière que nous allons prier à la fin de ce message? Alors, premier constat, Jésus nous donne des instructions sur notre façon de prier. Donc, je vais noter deux points brièvement sur notre façon de prier et puis on parlera du contenu de la prière. D'abord, j'espère que c'est évident, mais la prière n'est pas un spectacle. Quand nous prions, prions afin que Dieu nous entende et non pas afin que les autres nous entendent. Ne prions pas pour que les autres nous voient. C'est basique, mais la tentation sera toujours de soucier de ce que les autres pensent de nos prières. Parce qu'en tant qu'Église, en fait, en tant que famille spirituelle, nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Nous sommes appelés à prier dans la présence des autres. Même parfois, spécifiquement pour que nos frères et nos sœurs entendent ce que nous prions, comme on a fait cette semaine. Ça m'a vraiment encouragé d'entendre mes frères et sœurs prier pour nous. Ça m'a fait du bien. On est appelé à faire ça. Mais quand on fait ça, ce n'est pas un spectacle. C'est une façon d'adorer Dieu ensemble et de se soutenir les uns les autres, de vivre notre solidarité et notre identité en tant qu'enfants de Dieu. La prière peut être collective, mais ce n'est jamais un spectacle. Si vous êtes déjà venu au temps d'intercession le jeudi soir, vous savez de quoi je parle. C'est encourageant. C'est un moment de solidarité. Mais ce n'est pas un spectacle. Et justement, dans cette prière que Jésus nous donne comme exemple, il parle exclusivement au pluriel. Nous, donne-nous, aide-nous, délivre-nous. Nous devons prier ensemble les uns pour les autres. Et quand nous le faisons non pas comme individus qui prient devant d'autres individus, mais comme une famille unie dans une seule prière. Quand quelqu'un prie ici devant l'assemblée, ce n'est pas une personne qui prie pendant que les autres prient. C'est une personne qui exprime ce que les autres sont en train de prier intérieurement. C'est l'idée de notre prière ensemble. Deuxièmement, ce passage nous rappelle de ne jamais imaginer que nous allons forcer la main de Dieu et le convaincre d'exaucer nos prières en multipliant nos mots par la force de nos belles paroles. Le but de la prière n'est pas de convaincre Dieu, d'autant moins en refusant de nous taire. Dieu sait déjà de quoi nous avons besoin. Verset 8. C'est vrai que Dieu nous dit de prier sans cesse et de rester fidèle dans la prière, de persévérer. La prière change les choses. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes là pour convaincre Dieu par nos paroles et pour forcer sa main. Comme si après 5 heures de nos prières sur tel ou tel sujet, il sera obligé de nous répondre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous sommes appelés par cette prière, de venir vers lui dans la simplicité, pour lui présenter toute notre vie, tout ce qui se passe dans ma vie, mes soucis, mes fardeaux, mes besoins, dans la simplicité, tout en reconnaissant qu'il est déjà au courant. Mais il veut m'entendre, il veut m'écouter, parce que c'est comme ça qu'une relation marche. Une relation marche quand deux personnes parlent l'un à l'autre. Nous revenons vers Dieu jour après jour parce que nous avons besoin de lui, de nous débarrasser de nos fardeaux en les laissant entre ses mains. Et si vous ne faites pas ça, chaque jour, je vous encourage de le faire. Et si vous ne savez pas comment commencer, commencez avec cette prière, avec ce modèle. Prier sans cesse veut dire amener chaque aspect de ma vie devant Dieu à chaque instant. Comme vous, depuis longtemps, je prie sans cesse pour notre projet bâtiment. Et comme vous, probablement, à un certain moment, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien à dire. Tout a été dit. Le projet était entre ses mains. Et donc, chaque jour, je lui ai redit juste Mon père, ce projet est entre tes mains. Je ne peux rien faire pour le moment. Je le laisse entre tes mains et je te fais confiance. Aide-nous à rester ouverts à ta volonté. Montre-nous comment te garder au centre de tout ce que nous faisons. Amen. Et certains jours, cette prière m'a amené par la suite à prier pour la ville, parce que c'est pour le bien de cette ville que nous voulons construire. Nous voulons une place pour grandir. Certains jours, cette prière m'a amené à prier encore plus pour vous, pour nous qui allons utiliser ce local pour la gloire de Dieu, et ainsi de suite. Mais l'idée n'était pas de rester sur la même chose en essayant de convaincre Dieu d'enfin agir. C'était plutôt d'exprimer ma confiance qu'il allait agir et de laisser entre ses mains ce fardeau qui pourrait peser si je laissais, si j'essaie de le garder entre mes mains. Chaque jour, j'avais besoin de laisser ce fardeau entre ses mains. Si je vois l'une de mes filles en train de faire quelque chose de difficile et je la regarde de loin, peut-être en train de lutter, peut-être en train de souffrir même à cause de la difficulté de la chose, et enfin elle décide d'arrêter ce qu'elle fait pour venir me demander de l'aide. Si je suis un bon père, si j'aime ma fille, je ne vais pas avoir besoin d'être convaincu. Dès qu'elle prononce la phrase « Papa, peux-tu m'aider ?» Je serai là. « Papa, peux-tu m'aider ?» Ton père est là. Ton père t'aime et il sait de quoi tu as besoin. Tu n'as pas besoin de le convaincre. Tu as simplement à venir devant lui chaque jour, chaque moment, avec toute ta vie et de lui donner. Ton Père Céleste n'a jamais marre de t'écouter. Tu peux lui dire tout et n'importe quoi. Je vous assure, à certains moments dans ma vie, j'ai dit à Dieu presque tout et n'importe quoi. Dieu est ton Père. Il n'a pas marre de t'en écouter, de t'écouter. Il veut que tu viennes vers lui avec toute ta vie. Il n'a pas besoin que tu l'expliques, il connaît déjà. Mais si tu n'as pas besoin de t'expliquer, tu peux t'expliquer. Mais ce n'est pas parce qu'il a besoin d'être mis au courant. L'idée, c'est d'être dans sa présence, de construire notre relation avec lui. Parce que c'est de sa présence que toute bénédiction découle. Vous en rendez compte, toute bénédiction dans notre vie découle de la présence de Dieu. Je dois passer du temps dans sa présence. Mais quelles sont ces bénédictions que nous cherchons? Qu'est-ce que nous demandons de Dieu? Alors, et c'est ça la deuxième partie ce matin. Regardons le contenu de cette prière que Jésus nous enseigne. On peut diviser cette partie de la prière en quatre parties, ou plutôt trois parties avec une introduction qui résume le but des autres. L'introduction de la prière se trouve au verset 9 et 10. Elle consiste en trois phrases qui signifient toutes les trois presque la même chose. Je lis. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Chacune de ces trois phrases revient à la même chose. Que Dieu soit reconnu comme Dieu sur terre et dans ma vie. Que son règne vienne sur terre de plus en plus. Dieu est déjà roi de l'univers. Jésus est déjà au trône. Mais son règne n'est présent que là où il est reconnu comme roi. Là où son nom est adoré et là où sa volonté est faite. C'est ça le sens de la phrase « royaume de Dieu ». Le royaume de Dieu s'étend partout où Jésus règne. Et un jour, ce sera partout. Mais pour le moment, C'est là où il est reconnu comme Dieu, dans ma vie et sur la terre. Et tout ce que nous prions doit revenir d'une façon ou autre à ça. Que le règne de Jésus couvre la terre comme les eaux couvrent la mer. Et cette prière nous rappelle que ce règne doit commencer d'abord en nous. Il doit prendre racine d'abord en nous. C'est très intéressant de noter que Jésus nous dit de suivre la phrase « Que ta volonté soit faite », non pas par une prière pour les autres, mais par une prière pour nous-mêmes. Et ce n'est pas égoïste. En fait, c'est l'inverse, parce que c'est de reconnaître que d'abord, Dieu a besoin de travailler en moi. On aurait pu s'attendre à ce que nous devions prier, que ta volonté soit faite sur terre, que mon voisin soit plus gentil, que les athées de cette ville reconnaissent qu'ils ont tort, et que ta volonté soit faite sur terre chez les autres. Et puis, chez moi. Parfois, nous imaginons la volonté de Dieu comme ça, que la volonté de Dieu soit faite chez les autres, que Dieu règle cette situation-là, ce pays qui va vers le désastre, n'importe quoi. Le règne de Dieu sur terre commence chez nous, ses enfants, chez moi. Quand nous prions, nous devons prier que ta volonté soit faite en moi comme au ciel. Et puis, chez les autres. C'est intéressant aussi de noter que le premier aspect de ma vie pour lequel Jésus me dit de prier, c'est ma vie physique, ma vie matérielle, mes besoins matériels. C'est ça le sens du pain quotidien. Nos besoins matériels, physiques. Et en écoutant certains croyants, on peut avoir l'impression que Dieu s'en fiche de ces choses. Alors qu'ici, dans cette prière, c'est la première chose qu'il mentionne. Chez d'autres chrétiens, on peut avoir l'impression que ce n'est que ça qui compte. Que Dieu veut surtout que nous soyons riches et que nous réussissions à tout ce que nous faisons. Mais Jésus ne dit ni l'un ni l'autre de ces mensonges. Dieu ne se fiche d'aucun aspect de notre vie. S'il nous a donné un corps, ce n'est pas pour oublier que nous avons besoin de le nourrir. Au contraire, Dieu nous invite à lui demander tout ce dont ce corps a besoin, mais dans une perspective de simplicité. Le pain quotidien n'est ni du luxe, ni un stock de trésors pour l'avenir. Ça nous renvoie en fait à l'histoire de Man dans l'Ancien Testament. Il n'avait pas le droit de prendre plus, juste ce dont il avait besoin pour un jour. Parce qu'il devait faire confiance à Dieu pour la suite. C'est pour ça qu'on n'amasse pas nos trésors. Cette prière, si nous le prions chaque jour, elle nous rappelle que tout ce que nous avons vient de Dieu. Et nous pouvons donc nous focaliser sur les choses spirituelles, justement parce que Dieu s'occupera de nos besoins physiques. Notre façon de penser à nos besoins et à nos désirs physiques et notre façon de prier pour ces choses est une question spirituelle. On ne peut pas dissocier nos besoins matériels et notre vie spirituelle. Notre façon de voir ces choses, nos besoins et nos désirs, c'est une question spirituelle. Et presque tout le reste de ce chapitre, en fait, parle de ça. Verset 31, par exemple. « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous y inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et Dieu s'occupe du reste. Alors, faites attention, il n'est pas écrit que Dieu te donnerait tout ce que tu peux imaginer. Et il n'est pas écrit non plus « Cherchez le royaume de Dieu afin que le reste te soit donné. » Cherche simplement le royaume de Dieu et puis laisse Dieu s'occuper du reste. Cherche sincèrement le royaume de Dieu. Et puis, tu vas trouver que le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Et ça nous amène justement à la deuxième partie de cette phrase, cette idée de justice. Chercher la justice. Et là, nous avons un problème, parce que nous avons le péché en nous. Et donc, verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là, on n'est plus sur le plan spirituel. Ici, il s'agit vraiment de notre vie spirituelle. Précisément notre relation avec Dieu. C'est ça le but du pardon. Le but du pardon, c'est de rétablir et restaurer notre relation avec Dieu. Alors, là, donc, il faut préciser certaines choses par rapport au pardon que Dieu nous offre afin de ne pas tomber dans certaines erreurs assez graves, comme on voit chez certains. Parce qu'il y a en fait deux types de pardon dans la vie. Ou mieux, disons, deux façons de recevoir le pardon. Il y a d'abord le pardon qu'on reçoit la première fois qu'on vient à Dieu. La première fois qu'on se repent. Parce que ce moment-là, le pardon que nous recevons nous permet d'entrer en relation avec Dieu pour la première fois. C'est à ce moment-là où nous devenons son enfant. Bref, ce pardon, ce moment de pardon nous permet de recevoir le salut. Par la suite, lorsque nous demandons pardon à Dieu, nous le demandons plus comme quelqu'un qui vient à Dieu pour la première fois. Nous le demandons comme son enfant. Et dans ce deuxième cas, demander pardon a un autre but. C'est pas pour créer notre relation avec Dieu. C'est afin de la maintenir en bonne santé. C'est un peu comme quand je dis « je t'aime » à ma femme. Ça signifie la même chose maintenant que la première fois que je l'ai dit. Mais la conséquence n'est pas la même. La première fois, lui dire « je t'aime » nous a fait entrer dans une nouvelle phase de notre relation. Maintenant, lui dire « je t'aime », ça renforce et ça maintient ce qui existe déjà. C'est le même amour, ce sont les mêmes paroles. C'est pas exactement la même chose. La première fois que je demande pardon à Dieu, j'entre dans une nouvelle phase de ma vie, dans la première phase avec lui en fait. J'entre dans ma relation avec lui. Mais maintenant, nous, les croyants, moi je suis déjà croyant. Et donc maintenant, quand je demande pardon à Dieu, c'est pour rester près de lui. Pour rester près de mon Père, qui reste mon Père. Moi, j'ai besoin de faire ça chaque jour, plusieurs fois même. Non pas forcément parce que je suis un horrible pécheur, au moins selon les normes humaines, mais je dois demander pardon à Dieu chaque jour, parce que je ne suis pas du tout à la hauteur de Jésus. Je ne suis pas digne d'être dans la présence de Dieu. Je ne suis pas à la hauteur de ce qu'il est décrit dans ce chapitre. Je n'aime pas ma famille parfaitement, avec un amour pur et désintéressé, et d'autant moins mes ennemis. Je ne vis pas dans un état de perfection spirituelle. Et pourtant, Jésus nous dit, « Soyez parfaits comme votre Père est parfait. » C'est la fin de ce chapitre, et c'est un peu déstabilisant. Parce que Jésus nous appelle à être parfait. Et donc moi, je dois forcément demander pardon chaque jour. Non pas pour échapper à la condamnation. Parce que je suis enfant de Dieu. Je dois demander pardon pour rester proche de mon Père. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8. Mais si nous voulons vivre chaque jour rempli de sa présence, nous devons rester conscients de nos fautes devant lui.
Et cette prière nous rappelle que ce n'est pas juste notre relation avec Dieu qui compte sur cette terre. Si nous voulons vivre en sorte que son règne s'établisse sur terre, nous devons aussi pardonner aux autres. Jésus dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres. C'est quand même frappant, n'est-ce pas? Moi, j'ai un peu peur de prier ça. Parce que moi, je ne suis pas très bon en pardon. Le vrai pardon, un pardon profond et authentique, n'est pas facile. Et Dieu m'a fait comprendre ces dernières années que même quand je pense avoir pardonné quelqu'un, très souvent, je garde une racine d'amertume, comme nous en avons parlé il y a quelques semaines. Et donc, si je demande à Dieu de me pardonner comme je pardonne aux autres, en réalité, je sais que je suis en train de lui demander de me pardonner à moitié. Parce qu'en fait, c'est souvent comme ça que je pardonne aux autres, à moitié. Est-ce que je veux vraiment que Dieu me pardonne comme je pardonne aux autres? Heureusement, nous savons que Dieu va bien au-delà de ce que nous demandons. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et pourtant, Jésus nous donne ce modèle. Pardonne-moi comme j'ai pardonné aux autres. Parce que si je prie ça chaque jour, Seigneur, pardonne-moi comme j'ai pardonné aux autres, Seigneur, pardonne-moi comme j'ai pardonné à ma femme, je me trouve devant la question, ai-je vraiment pardonné aux autres? Cette prière m'oblige à m'interroger. Et si je trouve que je n'ai pas pardonné aux autres de la même manière que je veux que Dieu me pardonne, je sais que je dois faire ce que je dois faire. Je dois demander pardon de ne pas avoir pardonné. C'est le premier pas. Heureusement, je suis là devant Dieu en train de prier, en train de demander pardon. Je peux enchaîner tout de suite avec pardonne-moi parce que je n'ai pas pardonné. Juste après cette prière, Jésus nous dit explicitement que si nous ne pardonnons pas aux autres, le Père ne nous pardonnera pas. Encore, cela n'est pas pour dire encore une fois qu'il enlèvera notre salut. Mais c'est pour dire qu'il restera quelque chose dans notre relation avec lui qui nous empêchera de le vivre pleinement. Je vous pose la question donc, y a-t-il un manque de pardon dans ta vie aujourd'hui qui mine ta relation avec lui? Quand nous prions cette prière à la fin du message, et quand vous dites « Pardonne-moi comme j'ai pardonné aux autres », qu'est-ce que ça donne? Demande-lui pardon de ne pas avoir pardonné et priez pour la force de pardonner. C'est le premier point. Nous devons prier pour la force d'obéir. Nous devons prier pour la force de pardonner et d'obéir dans chaque partie de notre vie. Et c'est le sens de la troisième partie de cette prière. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est-à-dire, pardonne-nous nos péchés, oui, mais aussi enlève de plus en plus les aspects de notre vie pour lesquels nous devons demander pardon. L'idée n'est pas juste de demander pardon et puis continuer à faire la même chose. On demande pardon et puis on demande que Dieu enlève ce péché de notre vie. La vie avec Dieu n'est pas simplement une vie de grâce et de pardon, c'est aussi une vie d'obéissance et de purification. Le processus de devenir de plus en plus saint, c'est ce qu'on appelle des fois la sanctification. C'est un grand mot qui veut dire tout simplement devenir de plus en plus comme Jésus. Je pense que vous en êtes bien conscient. Nous venons de passer plusieurs mois en étudiant la tentation dans la vie de David justement pour aider à déraciner le péché de notre vie. Je ne vais pas redire tout ce qu'on a déjà dit. On va juste noter deux choses par rapport à cette prière avant de terminer. D'abord, délivre-nous du mal signifie délivre-nous du malin. Protège-nous de l'ennemi. Le mal n'est pas juste une force impersonnelle. Le mal nous cible de façon précise parce que le mal vient de Satan lui-même. Le malin est rusé et personnel. Prier cette prière chaque jour nous rappelle chaque jour notre besoin de Dieu et elle nous ouvre à la protection qu'il nous offre. et ne pas demander cette protection. Par contre, c'est comme un soldat qui entre seul dans le territoire de l'ennemi, sans son casque et son arme. Pourquoi faire ça? Lorsque nous avons à notre disposition le plus grand roi guerrier pour nous accompagner chaque jour. Protège-nous de l'ennemi. C'est notre prière de chaque jour. Deuxièmement, notons ce que c'est d'être protégé du malin. C'est d'être protégé du péché. Les deux parties de ces versets sont synonymes. Protège-nous de la tentation égale délivre-nous du mal. Délivre-nous du Satan. Ce que Satan veut dans ta vie, c'est de t'amener dans le péché. Satan s'en fiche que nous soyons riches ou pauvres, malades ou en bonne santé, employés ou au chômage. Finalement, Satan s'en fiche. Tout ce qui compte pour lui, c'est de nous pourrir la vie en pourrissant notre relation avec notre Père. Et ça, afin de limiter le règne de Jésus sur terre. Satan ne peut pas nous arracher de la main de notre Père, Romains 8. Mais il peut rendre notre vie misérable et détruire notre témoignage si nous le laissons. C'est son but. On peut avoir l'impression, parfois, que Satan nous attaque lorsque les souffrances arrivent. La maladie, les difficultés financières ou familiales, et ainsi de suite. Et ça peut être le cas. C'est possible que ce soit comme ça que Satan va t'attaquer. Mais finalement, ce n'est pas ça qui compte pour Satan. Parce que si tu loues Dieu dans tes souffrances, Satan a perdu. Pour Satan, ces choses ne seraient qu'un outil pour t'amener vers la tentation, afin de t'affaiblir dans ta vie spirituelle. Tout ce que Satan veut, son but, c'est de te conduire vers l'amertume, de te conduire vers la colère, vers l'égoïsme, vers la crainte. Tout ce qui t'empêche de devenir de plus en plus comme Jésus. Et si Satan trouve que c'est plus efficace de te donner la richesse ou une vie aisée, parce que c'est ainsi que tu vas oublier Dieu, Satan peut très bien te donner la richesse. Tout outil qui t'éloigne de Dieu est utile à Satan. Voilà pourquoi il faut prier pour la protection, parce que nous ne savons pas d'où l'attaque va venir. Et donc, il est tout à fait légitime que nous prions que Dieu nous aide face aux situations difficiles, qu'elles soient financières, familiales ou autres. Mais lorsque nous suivons Jésus, ici, en priant d'être protégé de la tentation, c'est autre chose. Ici, ce qui compte, même plus que tout ce qui peut nous arriver, c'est la façon dont nous répondions à la situation. Que nous soyons protégés du malin, et dans la pauvreté, et dans la richesse, et dans le repos, et dans la souffrance, et dans les bons, et dans les mauvais jours. Et pour ça, vous savez bien, nos propres forces ne sont pas suffisantes. S'ils étaient, nous n'aurions pas besoin de prier. Mais encore, la prière ouvre la porte pour que le règne de Dieu se répande en nous. La prière invite Dieu à agir. Et la prière nous rappelle notre propre insuffisance. Il n'y a rien de plus dangereux dans cette vie que de commencer la journée en imaginant que je peux y faire face par mes propres forces. Je dois rester conscient de mon besoin de Dieu. C'est ainsi que son règne viendra sur terre et en moi. Parce que ce moment-là, je ne suis plus le roi de ma propre vie. Et c'est ça la prière. La prière met Dieu à sa place et moi à ma place. Que son règne viennent sur cette terre et en moi. Je vous invite à vous lever pour prier cette prière ensemble. Et je propose que nous lisions dans la version qui se trouve dans le second.